Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime, une émission préparée comme chaque jour par Perrine Suquet, avec Charlotte Méritant et les archives sonores de la rédaction. Et aujourd'hui, c'est François Touchard qui est à la réalisation technique de notre émission. À la une, des mystères, des énigmes, des affaires non résolues qui ont tout un point commun, c'est qu'elles se sont déroulées d'une façon large, on peut dire, en Provence, hein, pas loin de la Côte d'Azur jusqu'à Marseille. Et je le disais tout à l'heure, près de 1000 homicides sont commis par an en France. En fait, on est plutôt, d'après mes dernières informations, dans les 900 que dans les 1000, ce qui est en soi une bonne nouvelle. On tue moins en ce moment, au 21e siècle, qu'on ne tuait, par exemple, au début du 20e siècle à Paris. Mais il y a un chiffre qui reste incompressible, c'est cette statistique, évidemment, qui nous dit que à peu près 5% des affaires ne sont pas résolues. Ce qui fait qu'il reste, et elles reviennent périodiquement, évidemment, dans les médias, ou alors on en reparle parce que des informations sont ouvertes, parce qu'il y a eu des éléments nouveaux, et quelques-unes de ces affaires sont parfois résolues 20, 30 ans plus tard, mais ça n'est pas le cas de toutes. Et celles dont nous allons parler aujourd'hui sont de véritables énigmes, même s'il y a une vérité judiciaire qui n'a pas pu voir le jour. Pour certaines d'entre elles, on peut se dire que finalement la vérité n'est pas loin et qu'elle est dans le dossier. Mais on va voir ça tout de suite avec mes invités. Clémentine Weiss, bonjour.
Bonjour.
Et Thibaut Théard, bonjour.
Bonjour.
Alors Clémentine, vous êtes journaliste pour les sites d'information marseillais Mars Actu et Mars Echo. Ouais. Et vous, Thibaut, vous êtes le correspondant du quotidien Ouest France. Vous avez travaillé longtemps à Marseille.
Oui, voilà.
Changer la Bretagne pour pour la région de Marseille. Un mot peut-être sur votre méthode de travail, parce que vous publiez un livre qui a tout de suite attiré évidemment notre attention, qui vient de paraître aux éditions Ouest France sous le titre Dossier non élucidé et crimes mystérieux en Provence. En fait, vous avez enquêté à nouveau sur un certain nombre de ces affaires qui vous ont particulièrement frappé. Mais il y a eu un choix, forcément.
Oui, parce que la Provence est riche en affaires criminelles. Il y a le folklore autour de Marseille, évidemment, un certain nombre de meurtres. Alors, il y a des affaires criminelles presque tous les jours à Marseille, je dirais. Enfin, c'est un peu exagéré, mais il y a un certain nombre de faits divers sanglants régulièrement à Marseille. La presse en parle tout le temps. Souvent, ce sont des règlements de compte qui d'ailleurs ne donnent pas de suite ou peu de suite.
Parce que quand on est avec la criminalité organisée, en général, il y a peu de témoins et pas de traces.
Voilà. Et puis, sans vouloir insulter le travail de la police, qui est à Marseille particulièrement réputée pour résoudre les affaires, quelquefois des règlements de compte entre petites truands, c'est pas forcément ce qui la motive en priorité.
Alors on va voir ensemble le choix que vous avez effectué dans ces affaires. Dans un tout petit instant, RTL, il est 14h08, instantané RTL.
Une patrouille de deux avions Rafale français vient d'effectuer un vol de reconnaissance au-dessus de la Syrie. C'est le tout premier des vols annoncés hier par le président François Hollande. Information RTL de Christophe Decroix.
Et on reprend donc le cours de l'émission. Et évidemment, vous avez rendez-vous avec Marie Guerrier à 15h pour les prochaines infos. Alors, Clémentine Weiss, vous n'êtes pas une spécialiste du fait divers. Comment vous avez opéré tous les deux votre choix d'affaires? Parce que vous évoquez l'affaire Dominici, vous évoquez la disparition d'Agnès Leroux. Mais ce ne sont pas les affaires, j'ai l'impression, qui vous tiennent le plus à cœur.
Déjà, le premier travail a été de répertorier toutes ces affaires non élucidées. C'est pas toujours évident, puisqu'en fait elles sont très inégales dans le traitement médiatique. Il y a des affaires qui évidemment ont fait la une très longtemps, il y a d'autres affaires qui ont fait l'objet d'un papier, peut-être deux, et après ça relève du travail des familles. Donc on en avait quelques-unes qu'on n'a pas pu traiter, mais on a essayé d'équilibrer entre des affaires très médiatiques, des affaires beaucoup moins médiatiques, des affaires dans lesquelles il n'y avait aucun suspect, et d'autres pour lesquelles il y avait des pistes mais qui n'ont pas abouti.
Et alors, vous avez fait un travail d'enquête, c'est-à-dire que vous êtes allé au contact des familles de victimes, des avocats.
On a essayé de remonter à chaque fois, de faire un travail nouveau sur chaque affaire. Des fois, d'ailleurs, il y aura peut-être des surprises, parce qu'il y en a d'autres qui feront peut-être l'objet de suite dans le travail. traitement sous une autre forme, avec un bouquin consacré directement à une affaire. Ouais. Je pense notamment au bar du téléphone, là, qui est un des grands mystères marseillais et qui peut peut-être donner l'objet à des révélations. On travaille un peu là-dessus.
Ah bon, voilà. D'accord, oui.
On en reparlera.
C'est une des affaires. On dit que ça fait plus de morts que la fameuse nuit de la Saint-Valentin,
voilà,
à Chicago,
à l'époque d'Al Capone.
À l'époque d'Al Capone,
c'est ça,
quand même.
C'était avant les tueries terroristes, etc., qui font relativiser un peu ça, mais c'était dans le cadre du banditisme, la plus grande tuerie de l'histoire, avec 10 morts, sans qu'on ait jamais su pourquoi on avait tué ces gens.
Voilà, Nice qui reliait forcément les unes aux autres les victimes, qui étaient soit des consommateurs, soit des gens, effectivement, qui étaient connus, comme on dit, des services de police. Quoi.
C'est ça. Ouais. Et tout le monde, on s'est dit que si on venait dans un bar à Marseille vers 20h, on trouvait forcément des gens qui avaient des liens avec les services de police, donc pourquoi ceux-là, pourquoi d'autres. Ouais. Et finalement, 30 ans après, on s'aperçoit, en interrogeant de nouveau les gens, que les langues peuvent se délier un peu. Alors, comme toutes ces affaires pour la justice sont classées, ne font plus l'objet de procédures, le travail journalistique, justement, permet des fois de revenir dessus. Voilà.
Et Clémentine Weiss, ça doit être assez particulier d'aller retrouver les familles de certaines victimes dans des affaires non élucidées. C'est un peu la double peine, quoi, parce que d'une part, ils ont perdu quelqu'un qu'ils aimaient, et d'autre part, ils savent pas ce qui s'est passé.
Bah, pour la plupart, en fait, le deuil s'est transformé en combat. C'est le cas notamment dans l'affaire du meurtre de Pierre Léchira, parce qu'en fait, ces gens-là, leur seul espoir, entre guillemets, c'est une nouvelle médiatisation, puisqu'on sait bien que les affaires ne sont pas non plus rouvertes par hasard, des fois l'instruction va être ouverte sur de nouveaux éléments, mais c'est extrêmement compliqué. Après, c'est toujours délicat en tant que journaliste, même des années après, d'aller rencontrer une femme qui a perdu son mari, sans savoir pourquoi. Je pense à l'affaire Ibrahim Assila, cet étudiant guinéen qui a été assassiné en pleine nuit sans avoir d'ennemis connus. Sa femme et sa fille sont là à attendre une réponse. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué, mais ça fait partie aussi de leur combat. Ils sont finalement habitués.
Alors, vous venez de prononcer le nom de Pierre Léchira, c'est un nom qui ne dit pas grand-chose à ceux qui nous écoutent, mais si on parle du berger de Castellar, ça va rappeler des souvenirs à un certain nombre de nos auditeurs. On va vous raconter cette histoire en détail dans un instant après une pause.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Nous sommes le samedi 17 août 1991 à Castellar, un petit village de 500 habitants perché sur les hauteurs de Menton face à la mer Méditerranée. Le jour se lève à peine, il est 6h15 du matin quand Pierre Léchira, un berger de 33 ans, quitte sa maison située au cœur du village. Il rejoint, comme tous les matins, en moto son troupeau de 900 moutons à l'oratoire Saint-Joseph situé sur les pentes du mont Gramont. Le bruit de son engin résonne dans le silence de la montagne. Dans un virage, au lieu dit Saint-Joseph, Pierre Léchira ralentit, un coup de feu claque, il s'écroule, gravement touché dans le dos par une cartouche de chevrotine. Son agresseur l'achève alors d'un deuxième projectile tiré, cette fois à bout portant, en plein visage. C'est un promeneur qui découvre le corps sans vie de Pierre Léchira peu de temps après. À 8h15, les gendarmes sont informés qu'un jeune homme vient de se tuer en moto sur le chemin Saint-Bernard. On pense à un accident. Francis, le père du berger, également prévenu, arrive sur les lieux du drame. Il découvre le corps de son fils en plein milieu de la route, avec un gros trou dans le dos. Puis il crie tout de suite aux pompiers déjà présents, surtout ne bougez pas, ne touchez à rien, laissez tout comme c'est. Une fois les gendarmes sur place, Francis rentre chez lui. D'un simple regard, sa femme comprend. Et il lui dit « On nous a tué le petit ». Aucun témoin n'a assisté à l'assassinat. Les habitants les plus proches du lieu du crime sont un couple de Danois qui habitent une maison isolée. Un peu plus bas, ils diront avoir entendu du bruit dans les broussailles du maquis après les coups de feu. Les gendarmes retrouveront à proximité du cadavre des cartouches de Winchester calibre 16, mais l'arme du crime, une arme ancienne, ne sera jamais retrouvée. Selon les premières constatations, des cartouches simplement vieilles de plus de 15 ans sont parfois encore utilisées par quelques vieux chasseurs. Le berger aurait-il été victime d'une balle perdue, se demandent les enquêteurs. L'hypothèse sera vite écartée. La chasse s'était fermée à cette date. La victime On en est sûr, n'a pas été tué par hasard. On lui a tendu une embuscade, un véritable guet-apens. Des traces de pas relevées sur les lieux montreront que le ou les tueurs se sont échappés par le maquis, ce qui laissera à penser aux enquêteurs qu'ils connaissaient très bien le coin. Il reste maintenant à trouver qui a froidement exécuté ce matin-là le berger de Castellar et pour quel mobile. Le lendemain, on apprend que le berger avait beaucoup d'ennemis. C'est ce qu'expliquait sur RTL André Lucchesi, notre correspondant dans la région, dans RTL Midi.
Depuis la mort atroce de Pierre, le berger qui avait déclaré la guerre aux chasseurs, il règne un climat très particulier à Castellar, une petite localité haut perché au nord de Menton. Le village est manifestement partagé en deux clans, mais l'affaire ayant maintenant pris une tragique tournure, les craintes et la méfiance générale dissuadent les uns et les autres de parler à de rares exceptions près. Une sorte d'atmosphère de vendetta corse. Et les gendarmes de Menton ont actuellement bien du mal à obtenir quelques confidences de la part de ceux qu'ils ont mis en garde à vue après la découverte de la tragédie. Ancien élève du lycée agricole d'Antibes, enfant du pays, Pierre Lesquerrière, la victime, était le père d'une fillette de 4 ans. Il avait réussi un remarquable retour à la terre. Il se retrouvait à la tête d'un troupeau de 600 moutons. Il est tombé dans une embuscade nocturne, abattu dans le dos à coups de chevrotine, au moment où il circulait à moto sur un chemin forestier pour rejoindre sa bergerie isolée. Puis il a été achevé de sauvage façon par ses agresseurs à coups de crosse. Le berger se savait menacé parce qu'il militait depuis 3 ou 4 ans dans une association Vivre à Castellar, hostile à l'actuelle municipalité. Il se battait pour obtenir des droits de passage pour son troupeau et il s'opposait fermement à ce que l'on chasse sur les hectares loués pour ses moutons. Une attitude qui lui avait valu des menaces anonymes mais hélas très claires. On va te foutre hors de Castellar, on te fera la peau.
Cette affaire va donner lieu à une véritable saga judiciaire sur laquelle nous reviendrons dans un instant avec mes invités. Cette saga a duré de très nombreuses années. Le dernier procès s'ouvre le 13 novembre 2008. Après deux précédents procès séparés et deux acquittements, Alain et Jérôme Vérandeau, deux membres de la famille, on devrait dire peut-être même du clan qui en voulait le plus à la victime, comparaissent ensemble pour la première fois. Ils sont accusés d'avoir assassiné Pierre Lesquerrière. Sur le banc de la partie civile, la famille de la victime, qui n'a jamais voulu ni baisser les bras, ni même quitter le village, comme l'explique au micro RTL de Pierre Thébault, Laure, la fille du berger assassiné.
Aujourd'hui, si nous on était partis, ils auraient obtenu ce qu'ils voulaient. Regardez, ça fait 18 ans qu'ils prennent la justice pour une conne. Si nous on n'était pas là, qu'est-ce qu'ils leur rappellent mon père ? Ça c'est sûr. Comme s'il me croise, il le croise. Je continue la résistance de mon père. On la continue, chacun à notre manière. Mon grand-père qui garde toujours ses deux brebis à la bergerie, c'est sa manière à lui de continuer à faire vivre mon père et de continuer à passer sur cette piste qui est à l'origine de tout. Et c'est sa manière à lui de le faire vivre. On a tous, à notre manière, une façon de le faire vivre.
Le 22 novembre 2008, le verdict tombe après 10 jours de débat et 2 petites heures seulement de délibération. Alain et Jérôme Vérandeau sont une nouvelle fois acquittés. Faute de preuves incontestables, doute a profité aux accusés et c'est un coup de massue pour la famille de la victime.
Les Skirins n'ont pas supporté ces 2 nouveaux acquittements des Vérandeau après 17 ans de combat quotidien pour tenter de savoir qui a tué Pierre le berger. Ils ont quitté le tribunal d'Aix hier soir comme s'ils avaient honte, comme si c'était eux les coupables, laissant le soin à leur avocat de régler les derniers détails. Maître Gilbert Collard.
L'acquittement, on ne le discute pas. En revanche, il faudra que les acteurs de ce gâchis judiciaire rendent des comptes. S'il y a eu un outreau des accusés, aujourd'hui on assiste à un outreau des victimes. Tout le monde est d'accord pour dire que, suite été une condamnation, elle aurait été le fruit d'un dossier pourri. C'est un acquittement, il est aussi le fruit d'un dossier pourri. Alors il faut que les pourrisseurs, à un moment donné, sortent de leur tranquillité et qu'ils viennent rendre des comptes.
Les pleurs des parties civiles contre l'émotion et les larmes de soulagement des Vérandeau, c'étaient les images qui s'entrechoquaient hier soir à Aix. Alain et Jérôme Vérandeau.
J'ai souffert pendant 17 ans, mais j'avais toujours confiance en moi, je ne l'ai pas tué, j'ai toujours, c'est ça heureusement qui m'a fait tenir la route, c'est tout. Je ne l'ai pas tué.
Ma première réaction, c'est la joie, la liberté, que je n'ai jamais douté à ma liberté.
À Castellar, l'histoire se termine sur un sentiment d'inachevé dans la mesure où l'on ne saura plus jamais maintenant qui a tué Pierre le berger.
C'était la correspondance de Pierre Thébault qui avait suivi le procès pour RTL. Le crime qui a coûté la vie à Pierre Lesquieria ne sera donc jamais élucidé. Ses parents, sa famille continueront chaque 17 août à fleurir le petit monument de pierre qu'ils ont entassé à l'endroit où leur fils est mort. Victime de la bêtise humaine, comme le dit une petite pancarte posée entre les herbes folles au bord du chemin, des herbes aussi folles que cette tragique histoire. Une pause tout de suite dans l'heure du crime et nous retrouvons mes invités dans un instant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et les invités de l'heure du crime aujourd'hui, Clémentine Weiss et Thibaut Théard. Ils sont tous les deux journalistes. Ils sont basés à Marseille, soit comme correspondants, comme donc Thibaut Théard qui est correspondant de Ouest France, soit travaillent dans des médias de Marseille, comme Clémentine Weiss qui est travaille pour des sites d'information. Et ils co-signent ensemble résultat d'une enquête qu'ils ont menée sur les crimes non élucidés de la Côte d'Azur, les crimes mystérieux également, en Provence, on va dire. Le livre vient de paraître aux éditions Ouest France. Il est absolument passionnant, je le dis, parce que, évidemment, ceux qui nous écoutent sont, comme nous, des passionnés de faits divers, et pas évidemment parce qu'on aime le sang ou parce qu'on aime le drame, mais tout simplement parce que les affaires, et en particulier les affaires non résolues, nous font nous poser beaucoup de questions sur... on se met finalement à la place des enquêteurs. Pourquoi n'ont-ils pas abouti? Quel est le véritable scénario, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pour beaucoup d'affaires, on ne peut qu'imaginer. Alors, c'est pas le cas du tout, Clémentine Weiss, pour l'affaire de Castellar, bien que il faut maintenant redire, et on l'a entendu tout à l'heure à travers les correspondances d'RTL, les personnes qui ont été impliquées dans cette affaire ont été blanchies par la justice, pas en une fois, hein, ça a duré, on va revenir sur ce feuilleton judiciaire, donc il n'est pas question pour nous de rouvrir le dossier et d'accuser qui que ce soit de ce meurtre. On ne peut que constater que le meurtre n'est pas élucidé et que l'enquête n'a pas abouti. Et pourtant, Clémentine Weiss, au début, lorsque les gendarmes et les enquêteurs ont commencé à travailler sur ce guet-apens d'un berger que quelqu'un, qu'un ou plusieurs tireurs attendaient au détour d'un sentier juste avant sa bergerie, on peut dire que c'était un véritable guet-apens et on a découvert qu'il y avait une tension énorme dans la région depuis longtemps.
Effectivement, en fait, dès le jour même du drame, le père du berger, Francis, donne tout de suite à la police. Et il désigne une famille qui a une propriété qui jouxte la bergerie, avec laquelle ça fait une dizaine d'années que Pierre est en conflit. Ça a commencé par une histoire de droit de passage sur un chemin. Il y a eu un premier procès en 82. Mmh. Ils en sont venus aux mains. Et donc le père donne six noms. Mmh. Et sur ces six noms, il y a quatre personnes qui vont être positives au test de la poudre, alors qu'en fait on n'est plus en saison de chasse.
Ça veut dire que donc ils ont utilisé une arme, ils ont des traces sur les mains ou sur les vêtements, et évidemment on pense tout de suite, mais les choses sont plus compliquées que ça. Chacun a une raison à donner qui est un alibi en fait. Les uns disent il y avait une fête, je crois, une grande paella.
C'est ça. Donc la famille en question, qui était l'ennemi désigné, explique la présence de poudre par le fait d'avoir tiré au fusil pour célébrer. Voilà. Ensuite, il y en a un qui dit « Mais j'ai utilisé un pistolet à clous, qui utilise de la poudre. » Ensuite, il dira qu'il a, dans le cadre des perquisitions, aidé les gendarmes à déplacer les fusils, que ça peut expliquer. Donc, effectivement, c'est assez... tout ça, c'est flou. On ne retrouve jamais l'arme.
On sait simplement que c'est une arme très ancienne.
Voilà, une arme de chasse.
On retrouve des fameuses cartouches Winchester, mais jamais l'arme, effectivement. Mais on sait qu'une arme comme ça a circulé, mais on la trouve pas. Et en fait, moi, la question que je me pose, et d'ailleurs vous en parlez dans le chapitre que vous consacrez à cette histoire, c'est, on ne peut que constater aussi avec quand même un peu d'étonnement, la longue période de temps qui s'écoule entre les faits 1991 et les procès. Et alors, autre chose, c'est que les procès vont avoir lieu successivement, c'est-à-dire que on va changer d'accusé régulièrement.
Il va y avoir trois procès. Alors, un des éléments qui explique la lenteur de la procédure, c'est qu'en fait, justement, cette fameuse poudre, il va y avoir différentes analyses réalisées, contradictoires.
Les experts ne sont pas d'accord entre eux.
Les experts ne sont pas d'accord. Il y a des experts qui sont qui quittent la profession, donc forcément, ça pose des problèmes. Donc, on a trois procès. Le premier porte sur l'oncle Alain Vérando, qui en fait, lors de sa présentation dans le tribunal, toute sa défense va être basée sur la culpabilité potentielle de son neveu qui avait dit lui trois jours avant le drame à Pierre, il lui avait dit je te mettrai une balle dans la tête.
Ouais.
Donc confusion dans la salle. Finalement, à l'issue de ce premier procès, le neveu est inculpé. Le neveu qui était mineur à l'époque.
La personne accusée est innocentée.
Voilà.
Et le neveu est à son tour inculpé, hein, comme
voilà.
On disait à l'époque.
Ouais. Donc le neveu est inculpé, est présenté à une cour de mineurs, est innocenté. Et ils passent tous les deux en appel ensemble.
Oui.
Et au cours de l'appel, la famille Leschiera abandonne les charges contre Jérôme pour se concentrer sur l'oncle.
Oui.
Et Alain Vérando, et le doute profitant
aux accusés. Il n'y a pas de preuves formelles.
Sans preuves formelles et dans la confusion la plus totale sur le scénario. Oui. Et sur les personnes impliquées dans ce guet-apens, au final, ça se solde par un acquittement.
Il reste bien sûr, et ça vous avez pu le constater, je pense que vous avez rencontré la famille de Pierre Leschiera, dont on n'a pas dit grand-chose encore, il faut rappeler, c'est quelqu'un qui est un peu atypique, il a travaillé en Afrique, on dirait aujourd'hui, quoi, il est un peu écolo-bobo ou...
Alors, c'est quelqu'un, c'est dans le reportage, il disait c'est un retour à la Terre réussi, ses grands-parents était de Castellar. Castellar, c'est un tout petit village, c'est vraiment à flanc de montagne, c'est superbe.
Mmh.
Et donc lui, il avait effectivement du retour du Bénin, je crois. Il revient, il a à cœur de faire cette activité.
Voilà,
il
est à nouveau un berger à Castellar, achète ses moutons.
Donc son cheptel grandit.
Voilà, il veut que les moutons se promènent librement dans la campagne, mais là ça plaît pas aux chasseurs, évidemment, puisque voilà, d'où les histoires de bisbis pour des terres. Terrain d'accès,
oui,
des choses comme ça,
c'est
terrible.
Oui,
hein,
ouais, voilà. Ouais. Donc c'est on peut dire que c'était un berger engagé, ça de toute évidence.
Ouais.
D'ailleurs, la famille l'explique assez bien. Pour eux, l'objet de ce guet-apens, c'est la montagne. C'est une bataille pour la montagne et pour qui aura le droit de se promener. Voilà.
Librement, voilà, et ce qu'on sait, la seule certitude qu'on ait, elle est malheureuse, c'est qu'on ne saura jamais, puisque l'action de la justice est close. La famille Leschiera a attaqué l'État pour dysfonctionnement, mais ils ont été déboutés, et ils n'ont plus, comme on dit, que leurs yeux pour pleurer. Vous êtes allé sur place constater, évidemment, que cette famille, en revanche, ne veut pas quitter les lieux et continuer à habiter là-bas. On va faire une pause, et on va se retrouver avec mes invités dans un petit instant. On va vous raconter une autre histoire. Alors là, elle est encore plus mystérieuse parce que la personne en question n'a jamais plus donné de ses nouvelles depuis un temps considérable.
L'heure du crime sur RTL.
Et à la une de l'heure du crime aujourd'hui, c'est ces affaires non élucidées, ces crimes mystérieux en Provence. C'est le titre du livre de mes invités Thibaut Théillard et Clémentine Vesse, qui publient aux éditions Ouest France cette enquête sur un certain nombre d'affaires, certaines très connues. Tout à l'heure, d'ailleurs, on terminera l'émission en évoquant un événement qui avait vraiment fait la une de l'actualité dans toute la France en 1982. La mort, alors le suicide ou le crime maquillé en suicide d'un certain René Lucet. Mais auparavant, avec Thibaut Théillard, on va parler de l'affaire Goubert. Alors, l'affaire Goubert, fait partie de ces affaires. Quand on dit l'affaire Goubert, voilà, personne ne voit de quoi il s'agit, sauf évidemment les gens qui habitent la région. On va, avant d'en parler, écouter un document RTL. Nous sommes donc en 2002, très précisément le 11 janvier 2002. Le directeur général général d'une grosse entreprise de manutention portuaire de Marseille disparaît. Il s'appelle Edmond Goubert. Deux semaines plus tard, les enquêteurs commencent à fouiller les environs du port, parce qu'on pense qu'il est peut-être tombé à l'eau, ou on a peut-être fait tomber à l'eau sa voiture pour des raisons mystérieuses. Écoutez ce qu'en disait à l'époque sur l'antenne d'RTL Jean-Benoît Vion.
Les plongeurs ont interrompu hier les recherches dans le port de Marseille en raison surtout de la forte houle. Au départ, c'est vrai, les policiers ont pensé à un accident. Edmond Goubert aurait pu tomber dans l'eau avec sa voiture. Cette piste semble s'effriter. Alors les enquêteurs s'intéressent aux affaires de ce directeur de Marseille Manutention. Il employait 600 personnes. Il était en train de négocier un gros contrat pour le port avec des pays du Maghreb et d'Afrique. Une véritable manne financière pour les activités portuaires. Cet homme, ancien docker d'une grande rigueur, aurait-il découvert un trafic quelconque, une malversation? Les enquêteurs n'en savent rien pour le moment. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est la raison pour laquelle ce père de famille tranquille a disparu la veille de son départ en vacances en ski. Les policiers procèdent par élimination et ils ont si peu d'éléments qu'ils ont ouvert un standard à l'évêché, l'hôtel de police de Marseille.
Alors Thibaut Théillard, Edmond Goubert n'est pas un inconnu pour la police.
Non, il a déjà été condamné en 1988 pour une affaire de trafic de cigarettes avec l'Italie. Il a fait 3 ans de prison en Baumettes, ce qui était une période très difficile pour lui parce que son fils, pendant qu'il était en prison, est décédé alors que lui-même travaillait sur le port. Le fils était également docker. Donc il a déjà des liens, il a tissé des liens.
Avec le grand banditisme, on va dire.
Avec le banditisme, ouais. Oui. On va découvrir plus tard que ce sera aussi avec le grand banditisme parce que Edmond Goubert, que tout le monde appelle Monmon, connaît beaucoup, beaucoup de monde à Marseille, même dans le milieu politique. Il est très connu, il a beaucoup de relations. Et c'est pas un homme tranquille. Ce qu'on disait à l'époque, on va découvrir qu'il n'était pas tranquille du tout, en fait. C'était un homme qui avait plusieurs vies, une vie très compliquée.
Alors, il avait une compagne qui s'est inquiétée, qui a appelé d'ailleurs les autorités.
Très vite, parce qu'en fait, de traces de lui, on n'en a qu'une dernière, c'est la caméra de vidéosurveillance du port qui voit sa voiture, une grosse Peugeot 607 qui sort du port.
On peut pas, les caméras permettent pas de voir s'il y a quelqu'un d'autre à bord.
Voilà, on ne voit pas ça plus que ça, mais un dernier relais téléphonique est actionné juste dans l'avenue de la sortie du port, le boulevard des Dames à Marseille. Ouais. Après, plus rien. Son téléphone reste allumé pendant toute la journée puisque des gens l'appellent, la messagerie s'empile, mais à la fin elle est saturée, c'est terminé. Depuis, plus aucune nouvelle d'Edmond Goubert.
Alors vous, cette histoire vous a passionné puisque vous y avez consacré aussi votre enquête. Vous avez appris d'autres choses depuis l'époque.
Et puis en plus, c'est une histoire sur laquelle il n'y a pas eu beaucoup de littérature, bizarrement. Et c'est une histoire à tiroir parce qu'on va découvrir qu'un certain nombre de gens pouvaient en vouloir à Edmond Goubert. On va aussi découvrir quelque chose d'assez étonnant parce qu'il a disparu en 2002 et il va faire l'objet en 10 ans plus tard d'un procès en correctionnel.
Où il va être condamné.
Ça fait plus de 10 ans qu'il a disparu. Ouais. Donc à un an de prison ferme.
Ouais. Pourquoi pour une histoire de malversation?
Alors non, c'est une histoire qui pourrait être d'ailleurs une des explications de sa disparition, même si on n'en est absolument pas sûr. Il était soupçonné, bien qu'il c'était un personnage éminent du port, qui avait de gros revenus, etc., de racketter un certain nombre de petites entreprises, notamment dans le domaine de la sécurité, et de leur réclamer de l'argent pour les faire travailler.
On n'a jamais rien pu prouver, mais il a été condamné quand même.
Il a été condamné pour ça. Ouais. En même temps, d'ailleurs, que quelqu'un que les Marseillais connaissent bien, qui s'appelle Jean-Luc Barési, qui est un agent de joueurs de foot. Ses trois frères, les frères Barési, qui sont tous liés plus ou moins de près ou de loin au grand banditisme. Et Edmond Goubert a été ami avec Jean-Luc Barési. Ils s'étaient rencontrés au stade Vélodrome. Edmond Goubert avait demandé que la compagne de Barési soit embauchée dans l'entreprise de sécurité qui travaillait pour lui. Donc on a un certain nombre d'interconnexions qui font que Edmond Goubert il avait plusieurs raisons, disons, de disparaître, ou aucune, parce que c'était par ailleurs quelqu'un qui avait pignon sur rue et qui était directeur général d'une grande entreprise, qui fréquentait la bonne société marseillaise.
On n'a jamais trouvé le fin mot de l'histoire.
Des personnes l'ont vu, soi-disant, plusieurs mois après sa disparition en Corse. Ouais. C'était des personnes, a priori, dont les témoignages pouvaient être reconnus valables, mais on n'en a jamais plus su. Alors quand on se promène à Marseille, il y a beaucoup de gens qui ont des versions sur cette histoire Goubert. la version qui revient souvent, c'est qu'il a disparu à la Corse, c'est-à-dire dans une cage à langoustes. Et les langoustes étant très gourmandes, bah, y a même plus de squelette. Voilà, donc, on remonte la cage quelques années après.
Rêver,
mais bon, il est peut-être aussi quelque part, mais ça paraît peu probable, parce qu'on disparaît comme ça difficilement.
Vous avez rencontré pour votre enquête pas les proches.
Oui, j'ai rencontré un certain nombre de gens. Alors sa femme ne veut plus parler parce qu'elle a découvert, c'est ça qui est assez terrible dans cette histoire, elle a découvert le jour de la disparition de son mari avec qui elle était liée, il devait partir au ski,
qu'il avait
plus qu'une liaison. Donc, et que sa vie finalement n'était pas du tout celle qu'elle pouvait imaginer. Donc pour elle, ça a été un épisode extrêmement douloureux parce qu'elle a perdu son mari, elle a découvert que c'était pas forcément l'âme qu'elle connaissait. Donc ça fait partie des éléments très douloureux de cette histoire. Oui. Dont on dit à Marseille que si elle devait sortir un jour, elle ferait beaucoup parler d'elle et qu'elle ce serait peut-être une des plus grosses histoires marseillaises de ces dernières années. Donc voilà.
À suivre. Une pause, c'est la dernière dans cette émission. Puis là, on va en venir dans quelques instants à cette affaire donc du vrai faux suicide de un certain René Lucet. On vous explique tout ça dans un instant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et c'est la dernière partie de notre émission consacrée à l'enquête de Thibaut Théillard et Clémentine Veil, qui sont mes invités, deux journalistes de Marseille, pour aller vite. Enfin, ils sont vraiment beaucoup. Dossier non élucidé et crime mystérieux en Provence. C'est un livre qui vient de paraître aux éditions Ouest France. Et je disais tout à l'heure qu'il est très intéressant parce que, évidemment, on s'arrête sur des vrais mystères criminels. Et puis, surtout, il y a une enquête d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, qu'est devenue l'affaire, comment elle a marqué de son empreinte ou pas. D'ailleurs, la région, et puis est-ce qu'il y a peut-être une nouvelle façon de voir les choses avec le recul des années. Alors là, on va parler d'un homme dont le nom aussi est peut-être largement oublié maintenant des Français, quoi, d'une manière générale, d'aujourd'hui. Hein. René Lucet. René Lucet était dans 1982, depuis je crois 1979, il avait été nommé directeur général de la Caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et en fait cet homme va se trouver plongé au cœur en tout cas d'affaires plus ou moins troubles qui tournent autour de la gestion des caisses d'assurance maladie, dont une partie de la gestion est confiée à des syndicats. Mes invités vont vous donner tous les éléments là-dessus. Puis un jour quand même, alors que il vient d'être démis de ses fonctions par la ministre Nicole Questiau, ministre de l'époque, gouvernement de gauche, hein, 1982, un matin, le 24 février 1982, le 5 mars ou le 4 mars 1982, 4 mars, merci, on le retrouve, sa femme entend deux coups de feu successifs et elle monte et il est mort. Alors, suicide ou crime maquillant suicide, les explications d'abord que donnait sur RTL notre correspondant dans la région à l'époque, Robert Cessieux.
L'ennui, c'est qu'en l'état actuel de l'enquête, aucune de ces deux hypothèses, le suicide ou le meurtre, ne résiste à l'analyse. Si c'est un suicide, comme on l'a supposé tout de suite après le drame, il faudra que l'enquête éclaircisse les invraisemblances notées par les experts. Deux balles mortelles tirées à 5 ou 6 secondes d'intervalle, traces de sang au plafond qui ne peuvent s'expliquer que si une hémorragie a précédé la pénétration de la première balle, position du corps enfin incompatible avec la trajectoire des projectiles. Si c'est au contraire un meurtre maquillé en suicide, il faudra également expliquer pourquoi deux balles ont été tirées alors qu'une seule aurait suffi et aurait eu entre autres avantage celui de calmer la curiosité des enquêteurs et d'oublier très vite un cadavre que beaucoup voulaient voir disparaître. Car si le suicide de René Lucet a empoisonné le climat préélectoral, sa mort, s'il se révélait qu'elle a été provoquée, pourrirait encore plus l'atmosphère. Cela explique d'ailleurs l'embarras des autorités, embarras de la police qui a vainement cherché à nous dissimuler les conclusions de l'enquête, embarras de l'avocat de la famille qui, méconnaissant les résultats de la police, rejette sans expliquer pourquoi toute hypothèse d'assassinat, embarras également du procureur de la République, M. Villatte, qui a hésité et hésite toujours à ouvrir une information et qui a attendu que la chancellerie l'annonce pour confirmer qu'une contre-expertise allait être ordonnée, embarras enfin la chancellerie qui a tenu à ce qu'on annonce très officiellement la constitution d'une commission de contre-experts, démarche qui n'est certes pas courante.
Alors Clémentine Weiss, on est à la fois dans un crime, dans une affaire, pardon, je ne dis pas, je voulais pas dire un crime, dans une mort qui est un drame évidemment intime, familial, mais ce drame va avoir des répercussions politiques entre la gauche et la droite, et la gauche et la droite, les uns vont dire c'est un suicide, et les autres vont dire mais non, c'est un crime qui est en suicide. Et ce qu'il faut dire, c'est que lorsque justement on appelle la police, quand la police arrive, c'est pas une scène de crime.
Non, dès le début, en fait, on pense au suicide. C'est-à-dire que c'est la conviction d'ailleurs intime de sa femme, c'est un suicide. Oui. Donc pour eux, ils nettoient la scène de crime, on prend des empreintes, on nettoie à grande eau, on nettoie la main de René Lucet, donc on ne peut pas relever...
Le fameux test de la poudre.
Voilà, le test de la poudre, on ne peut pas le faire. Pour eux, RS, d'ailleurs, c'est ce qu'écrit...
Surtout, ils ont des excuses aussi. Il y a une entrée de balle. La femme dit j'ai entendu deux coups de feu, mais il y a qu'une entrée de balle. Et la troisième autopsie va montrer qu'il y a bien eu deux balles qui sont entrées par le même orifice. Or, l'arme dont se servit cet homme, ou dont on s'est servi pour faire penser qu'il s'était suicidé, est un revolver à barillet. Donc, deux balles ne peuvent pas partir comme ça en même temps.
Oui, surtout qu'en fait, au début, ils ne trouvent qu'une seule douille sur la scène. Donc pour eux, voilà, il n'y a qu'une balle. Et ce n'est que grâce à une enquêtrice qui va dire non, qui va fouiller, qui va trouver la deuxième douille et qui va demander des autopsies supplémentaires, qu'on va commencer à avoir ces deux mystérieuses balles qui vont commencer à créer un trouble, puisque quelques jours avant, Lucet faisait la une, mais pour une toute autre raison, parce qu'il était en fait en conflit... en conflit sur la scène de son travail. Ouais. Mais bon, c'est pas n'importe qui, Lucet, c'est aussi quelqu'un qui a au cœur de tension et qui...
Voilà, donc une affaire qui restera jamais non élucidée. Je suis désolé parce que on est pris par le temps. Je regardais la pendule en même temps vous écoutant. J'étais terrifié parce que le temps passe très vite. Juste un mot, peut-être encore sur le fait que il avait débusqué vraiment une affaire importante.
Disons que Thibault, on est dans un contexte très tendu à l'époque à Marseille où il avait pris de front la CGT. Hein. Lui était militant de Force Ouvrière. Il était très proche d'André Bergeron qui était le patron de Force Ouvrière de FO à l'époque au niveau national. Et il était très, très en conflit avec la CGT pour une histoire de mutuelle un peu obscure qu'on n'aura pas le temps de préciser ici.
Mais qui aurait pu alimenter les caisses du Parti communiste.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est un contexte post-guerre froide, je dirais, enfin, ou encore la guerre froide, mais pas post-guerre froide, où la CGT et FO représentaient l'un et l'autre... des intérêts très divergents. Voilà. Donc,
Je suis désolé de vous presser comme ça. On va en rester là. Je renvoie tout le monde au bouquin parce que c'est très bien expliqué, c'est très clair dans le livre. Je suis vraiment désolé, on a été pris par le temps. Merci beaucoup, Thibaut Teilhard, et merci Clémentine Weiss. Et je rappelle le titre de ce livre vraiment passionnant : Dossier non élucidé, crime mystérieux en Provence, aux éditions Ouest-France.